Sud Radio.
Le grand référendum. 11h midi.
Philippe David. Allez, c'est parti jusqu'à midi. Une question, le grand référendum en direct tous les jours sur Sud Radio. La question de ce jour, de ce lundi, l'état d'urgence. Est-il efficace contre le terrorisme? Vous nous le dites en nous appelant au 0826 300 300 et en donnant votre avis sur sudradio.fr où vous pouvez aussi laisser vos commentaires. Le grand référendum jusqu'à midi avec Philippe David et ses invités. C'est parti.
Oui, après le rapporteur de la commission d'enquête sur les attentats de 2015, le député socialiste Sébastien Pietrasanta, c'est au tour de Manuel Valls d'ouvrir la porte à une prolongation de l'état d'urgence. Le Premier ministre a déclaré dimanche à la BBC que l'état d'urgence allait, je cite, sans doute être prolongé de quelques mois en janvier dans la perspective notamment des élections présidentielles et législatives. L'état d'urgence instauré en France après les attaques du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis a été prolongé de 6 mois fin juillet. Alors la question que nous nous posons dans ce grand référendum de 11h à midi sur Sud Radio est: l'état d'urgence est-il efficace contre le terrorisme? Vous pouvez bien évidemment voter sur sudradio.fr, laisser vos commentaires et appeler le 0826 300 300, réagir sur Facebook ou Twitter. Face à moi, Gilbert Collard, député Bleu Marine du Gard, Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste et auteur des Voix de la Terreur publié chez Fayard, et Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement chargé du terrorisme. Alain Rodier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors, l'état d'urgence a été créé en 1955 durant la guerre d'Algérie pour pallier l'insuffisance des moyens de droit. Ce statut permet à l'État d'assigner à résidence toute personne, je cite, « dont l'activité est dangereuse pour la sécurité et l'ordre public ». Est-ce qu'une mesure prise il y a plus de 60 ans peut être efficace en 2016?
Alors, efficacité, on pourra toujours se poser la question, parce que effectivement, on s'est aperçu que des gens qui étaient assignés à résidence, eh bien, pouvaient tout de même avoir des conduites à risque, et je pense toujours à ce prêtre qui a été poignardé par quelqu'un qui était assigné à résidence.
À Saint-Étienne-du-Rouvray, en juillet dernier.
Donc, il n'y avait pas ce dispositif.
Jean-Louis Bruguière, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio, je rappelle que vous êtes ancien juge antiterroriste, auteur du livre « Les voies de la terreur » publié chez Fayard. Est-ce que l'état d'urgence qui date de 1955, c'est-à-dire de la guerre d'Algérie, peut encore être efficace en 2016, c'est-à-dire 60 ans plus tard?
Écoutez, c'est un outil parmi d'autres, il faut pas, mais c'est pas une panacée, il n'y a pas que l'assignation à résidence, il y a des possibilités de faire des perquisitions sans mandat de nuit comme de jour, donc c'est à manipuler avec beaucoup de prudence parce qu'il y a des problèmes en termes de liberté individuelle, mais je ne l'exclus pas a priori, je dis simplement qu'il ne faudrait pas que ce soit un état permanent.
Gilbert Collard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes avocat, député Rassemblement Bleu Marine du Gard. Je vous pose la même question qu'à mes deux autres invités. Est-ce que pour vous, un système qui date de 1955 peut encore être opérationnel 60 ans plus tard? Parce que c'est la question que tout le monde se pose.
Non, mais surtout ce qu'il faut voir et faire un peu d'histoire du droit, c'est que depuis 1955, on s'est doté d'outils répressifs très efficaces. C'est toute la batterie des articles 421-1 et suivants, jusqu'à l'association de malfaiteurs en vue d'actes de terrorisme, texte qui n'existait pas, bien évidemment, en 1955. Alors, on a du mal à se passer de la notion d'état d'urgence, parce qu'on se dit, sait-on jamais, pourquoi ne pas utiliser même cet instrument, voilà. Mais quand on voit tout ce qui se passe, la voiture à Notre-Dame, tout près de Notre-Dame, qui va être repérée par les fonctionnaires de police, 2 heures après qu'un coup de fil ait été donné, l'assassinat du
prêtre... Alors je rappelle, c'était une voiture qui était remplie de bonbonnes de gaz, voilà, prête à exploser et à tuer de nombreuses personnes à Notre-Dame.
Voilà, là quand même on est obligé de se dire que l'état d'urgence, il n'est pas d'une efficacité absolument magnifique, hein. De la même manière qu'on se demande comment l'état d'urgence peut avoir une utilité quand on voit les manifestations violentes qui se sont produites dans Paris, quand on voit les flots de migrants parmi lesquels il peut y avoir, d'après l'OTAN, hein, et d'après l'État islamique lui-même, des terroristes. Bon, on a du mal à voir l'efficacité de cette mesure, mais en même temps on se dit pourquoi s'en priver? Voilà, On est pris dans ce paradoxe. D'un côté, on se dit, comme Trévidic l'a dit, du reste, hein, bon, les Français.
Juge antiterroriste, Marc Trévidic.
Marc Trévidic a été juge antiterroriste.
Antiterroriste.
Qui a déclaré, les Français ne peuvent espérer être protégés avec l'état d'urgence. Bon, c'est débile, a-t-il même ajouté. Bon. Alors, d'un côté, quand on voit tout ce qui se passe, on a envie de dire, oui, c'est vrai, c'est débile, ça sert à rien. Et d'un autre côté, on se dit, bon, est-ce qu'on a le droit de s'en priver ? Voilà, on est pris dans un paradoxe, hein, qu'il faut assumer. Voilà.
Un paradoxe dont on va parler pendant cette heure d'émission. Jean-Louis Bruguière, vous êtes ancien juge antiterroriste, vous avez entendu Gilbert Collard qui a parlé des articles 421 oui, alinéa 1 et suivant. Est-ce que vous confirmez que ces articles, qui n'existaient pas au moment de la guerre d'Algérie en 1955, ont grandement changé la politique, au moins la politique pénale de lutte contre le terrorisme ?
Ils sont cruciaux et je les ai utilisés de multiples fois. C'était vraiment c'est la pierre angulaire du dispositif. C'est ce qui nous a permis précisément de détecter à des
notamment dans quelles affaires vous les avez utilisées, Jean-Louis Bruguière ?
Dans toutes les affaires
de
lutte contre le terrorisme, surtout le terrorisme islamiste. Moi, j'ai commencé donc dans les années du GIA jusqu'en 2007. Donc, ça nous a permis, en lien avec la DST et avec les services, de pouvoir détecter.
Je rappelle que la DST, ça voulait dire Direction de Surveillance du Territoire,
oui,
c'est une partie des services secrets.
Actuellement, voilà. Moi, si vous voulez, moi j'insiste sur le fait que, et là-dessus, on a un panel d'éléments, si vous voulez, sur le plan judiciaire, il est incontestable que les articles, donc, sur l'action de malfaiteurs, l'ensemble du panel qui a été complété est essentiel, sont des outils, mais il faut savoir aussi, il faut qu'il y ait une méthodologie d'emploi, et méthodologie d'emploi, c'est la mise en moyen et la synergie avec les services de renseignement, les services de police judiciaire, l'ensemble des dispositifs, également la coopération internationale, qui, de ce point de vue-là, me périterait d'être renforcée, notamment au niveau européen. Et donc l'état d'urgence s'inscrit dans ces panels. C'est, comme je dis, c'est loin d'être une panacée. Ça peut être utile, je ne sais pas inutile dans certaines circonstances. La seule chose que je dis, c'est que je m'interroge aujourd'hui sur la pertinence donc, d'une prolongation qui pourrait être sinédiée et donc d'une institutionnalisation de l'état d'urgence. Et là, de ce point de vue-là, je ne serais pas favorable.
État d'urgence qui a déjà été renouvelé plusieurs fois. Alain Rodier, vous êtes directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement chargé du terrorisme. Vous avez entendu Gilbert Collard et Jean-Louis Bruguière, éminents juristes tous les deux, l'un comme juge antiterroriste, l'autre comme avocat. Vous confirmez que ces articles qui ont été rajoutés à partir de l'article 421 alinéa 1 du Code pénal ont favorisé la lutte au moins juridique pénale contre le terrorisme ?
Bon, moi, personnellement, je ne suis pas juriste, mais il est vrai que ces articles sont bien connus, effectivement, pour neutraliser des individus avant qu'ils passent à l'acte. Et donc, ils ont une utilité juridique indéniable. Cela dit, l'état d'urgence, ce n'est pas que cela, bien sûr. Il faut intégrer, bien sûr, l'opération Sentinelle qui rentre dans ce cadre. Et là, on a tendance à trop dire, à mon avis, que ça n'empêche pas grand-chose. Je me rappelle de la même polémique qui avait eu lieu en Italie sur les gardes du corps parce qu'on considérait qu'ils n'empêchaient pas des attentats. Et effectivement, on se rappelle, par exemple, de l'assassinat du juge Falcone, tous ces gardes du corps avaient été tués, mais on est incapable de dire combien d'assassinats ou d'attentats ont été évités parce qu'il y avait une présence policière ou militaire sur le terrain. C'est la même chose donc à l'époque donc des brigades rouges.
Alors c'était dans les années 70 les brigades rouges.
Mise en cause des dispositifs de protection.
Alors on va aller au standard dans un instant, si vous nous appelez au 0826 300 300, c'est le principe pour ce grand référendum. On vous pose une question, vous répondez oui, non, sudradio.fr. L'état d'urgence est-il efficace contre le terrorisme ? À vous de jouer, à vous de nous appeler si vous voulez passer en direct sur l'antenne avec Philippe David et ses invités. 0826 300 300.
Sud Radio. Le grand référendum, 11h midi.
Philippe David. Merci d'être avec nous en ce lundi matin. Sud Radio en direct avec Philippe David et ses invités. C'est le grand référendum jusqu'à midi. Comme d'habitude, une question. Voici celle de ce lundi. L'état d'urgence est-il efficace contre le terrorisme ? À vous de nous le dire, à vous de nous dire ce que vous en pensez, comment vous le vivez. 0826 300 300 et également sur sudradio.fr. Claire, qu'est-ce qui se passe ?
Pour 73% d'entre vous, vous dites que l'état d'urgence n'est pas du tout efficace contre le terrorisme. Et Véniel rajoute sur sudradio.fr que l'état d'urgence sert à contrôler les citoyens, non pas les terroristes. Il comble la vacuité du gouvernement dans le domaine sécuritaire. Il nous avertit d'une guerre sans être capable de nommer l'ennemi. Pire, il ne veut pas nommer l'ennemi. Dans ces conditions, à quoi pourraient lui servir les pouvoirs exceptionnels de l'état d'urgence, sauf à bâillonner, voire enfermer ceux qui savent très bien à quoi s'en tenir sur la réalité politique française.
Et avec nous ce matin dans le grand référendum de 11h à midi sur Sud Radio, Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur l'enseignement chargé du terrorisme, Gilbert Collard, avocat et député Rassemblement Bleu Marine du Gard, et Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste et auteur du livre « Les voies de la terreur » publié chez Fayard. Alors, le régime de l'état d'urgence a été élargi à toute personne à l'égard de laquelle, je cite, « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace. Il pourrait ainsi être interdit à la personne assignée à résidence d'entrer directement ou indirectement en contact avec des personnes soupçonnées également de préparer des actes portant atteinte à l'ordre public. Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme peuvent également être équipées d'un bracelet électronique géolocalisé. » Jean-Louis Bruguière, est-ce que c'est pas un peu léger? Est-ce que c'est pas un peu léger cet état d'urgence décrit comme ça dans cette période de ce qu'on peut appeler d'hyper-terrorisme?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la grosse complexité, et c'est une situation que je connais relativement bien quand même, que j'ai eu sur un plan opérationnel. C'est que aujourd'hui, c'est très, on est devant une situation très complexe et très polymorphe, avec un ensemble d'acteurs qui se déplacent extrêmement facilement sur un espace qui n'est pas uniquement français mais européen, et donc il nous faut une mobilisation de l'ensemble des moyens, à la fois technologiques, des moyens de renseignement, des moyens de sociétaux, des moyens du partage d'informations, pour qu'on puisse arriver donc à détecter suffisamment à l'avance des menaces qui sont comme vous avez vu, qui sont de polymorphes et qui peuvent venir d'individus agissant isolément ou d'organisations
Nice.
Ou de projets beaucoup plus structurés.
Comme le 13 novembre dernier. Gilbert Collard, ça vous paraît pas un peu léger ces mesures que j'ai citées en cette période d'hyperterrorisme ?
Mais c'est un moyen de c'est un leurre, quoi. Je pense que Trévidic a raison quand il dit que l'état d'urgence c'est débile, quoi.
Au moins c'est direct.
Oui, non, mais c'est direct. Moi j'aime bien le parler direct. On s'est bien rendu compte que malgré l'état d'urgence, il s'est produit des choses absolument effroyables. Dernièrement, on a bien vu ces policiers qui gardaient une caméra se faire agresser dans des conditions.
Au cocktail Molotov.
Au cocktail Molotov, des conditions que même en temps normal on n'aurait pas pu admettre. Bon, c'est un leurre, d'autant plus que sur le plan pénal, vraiment, comme le disait le juge Bruguière qui est orfèvre, hein, on a tous les instruments qui nous permettent de lutter. Mais le point gravissime de l'état d'urgence. Et je suis intervenu, moi, à la tribune de l'Assemblée sur la question, en disant que j'étais pour l'application de l'état d'urgence, mais à une condition, c'est qu'il soit sous le contrôle du juge judiciaire, et non pas administratif. Parce que le juge judiciaire est garant de nos libertés. Le juge administratif ne l'est pas. Or, je trouve tout à fait scandaleux qu'à partir du moment où on veut prendre des mesures qui sortent quand même du droit commun, on ne confie pas le contrôle de l'exercice de ces mesures à un juge de l'ordre judiciaire. Ça, c'est très, très dommageable. Je l'ai dit, ça n'a pas été entendu malheureusement, mais ces mesures quand même qui échappent au contrôle judiciaire peuvent devenir très vite liberticides. Pas forcément du reste à l'égard des terroristes qui passent en dessous, hein, mais à l'égard du citoyen qu'on repère comme ça. Moi j'ai vu un pauvre type, parce qu'il avait cliqué sur Internet, se retrouver convoqué en correctionnel, quoi, pour acte de propagande terroriste. Bon.
Et qu'est-ce qui s'était passé?
Ah ben rien, il a vu sur Internet un propos terroriste, il a cru que c'était un propos condamnant le terrorisme. C'est un brave type, hein, c'est un menuisier, pas du tout impliqué, et il a cliqué. Et ça a été repris sur Facebook, et il a eu une enquête, et il a été convoqué devant le tribunal.
Au tribunal correctionnel. Ah oui, effectivement. Alain Rodier, vous êtes directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement chargé du terrorisme. Est-ce que c'est pas un peu léger les mesures que j'ai énumérées? Et d'ailleurs, Gilbert Collard et Jean-Louis Bruguière sont d'accord dans cette période de ce qu'il faut bien appeler d'hyper-terrorisme. Jean-Louis Bruguière l'a rappelé, ça peut être un individu isolé qui fonce avec un camion dans la foule comme à Nice le 14 juillet dernier, ou un commando parfaitement organisé avec une logistique qui vient de Belgique, comme le 13 novembre dernier, il y a pile un an, à Paris et à Saint-Denis.
Oui, là où je rejoins tout à fait les deux éminents intervenants, l'état d'urgence ne fait qu'une partie du dispositif tout à fait complet. Il faut d'abord essayer de comprendre dans cette guerre contre le phénomène terrorisme, parce que je rappelle que le terrorisme n'est qu'un moyen d'action, mais qui est derrière? Et d'ailleurs, quelque chose de très intéressant vient de sortir sur le net. Bon, j'ai mon dossier a dû être complété encore. C'est les deux revues, l'une de l'État islamique, Rumiya numéro 3, et puis un jour après, la revue Inspire de Al-Qaïda, et les deux revues passent au crible un petit peu ce qu'ils vont faire dans les jours et les semaines à venir. Bon, si l'État islamique a l'air de s'intéresser énormément à la Turquie à l'heure actuelle, en déclenchant maintenant une guerre ouverte contre la Turquie, ce qui montre
on
le
l'a vu à l'aéroport
Atatürk
d'Istanbul.
De politique menée vis-à-vis du régime Erdogan. Là, par contre, la revue Inspire cible nommément les États-Unis et cite en exemple donc les fameuses cocottes minutes qui ont été employées récemment dans le New Jersey et à New York. Donc nous risquons d'être confrontés à des actions un petit peu de ce type.
Oui, bah c'est pour vous dire que on continue jusqu'à midi. Le grand référendum avec cette question, comme d'habitude, la question à laquelle vous répondez. L'état d'urgence est-il efficace contre le terrorisme? Vous nous le dites en nous appelant au 0826-300-300 et en laissant vos commentaires ainsi que votre opinion sur sudradio.fr. A tout de suite.
Sud Radio. Le grand référendum. 11h midi. Philippe David.
Merci de rester fidèle à Sud Radio. Jusqu'à midi, c'est le grand référendum avec la question du jour. L'état d'urgence est-il efficace contre le terrorisme? À vous de vous exprimer en direct sur l'antenne si vous voulez passer et parler avec Philippe David et ses invités. 0826-300-300. Vous avez aussi le choix de donner votre avis sur sudradio.fr. Miss Compteur, c'est clair.
Miss Compteur, c'est un beau prénom.
C'est joli, hein, Miss Compteur.
73% toujours, Sophie.
73% de
cet état d'urgence ne sert strictement à rien, visiblement, pour nos auditeurs. Et Bernard qui rajoute sur Twitter, l'état d'urgence permet des mesures judiciaires exceptionnelles. C'est pour cela qu'il faut le maintenir. Alors Bernard, lui, il veut le maintenir. Voilà.
Et avec nous, Gilbert Collard, avocat, député Rassemblement Bleu Marine du Gard, Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste, et auteur du livre Les Voies de la Terreur, publié chez Fayard, et Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, chargé du terrorisme. Jean-Louis Bruguière, vous avez dit un mot qui semble essentiel, beaucoup plus que l'état d'urgence, vous avez parlé de moyens. Est-ce qu'il y a vraiment un problème de moyens aujourd'hui? On parle souvent des 13 000 postes de fonctionnaires de police qui ont été supprimés sous le quinquennat précédent. Est-ce qu'il y a vraiment un problème de moyens aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme qui serait plus efficace si on avait plus de moyens que le maintien de l'état d'urgence?
Alors je pense effectivement que le problème de moyens est un problème crucial et qu'on a aujourd'hui face à cette déferlante, parce que si vous voulez, moi quand j'ai quitté mes fonctions, on avait à peu près 150 à 200 personnes donc dans le collimateur, si je puis dire, et aujourd'hui on en a plusieurs milliers, donc on a une espèce de tsunami auquel il faut répondre et il faut des moyens. Des moyens humains, des moyens juridiques, je crois pas. Je pense qu'il faut pas trop légiférer. Nous avons l'ensemble des outils existants, je pense notamment pour les juges et le parquet. Il faut des moyens de façon à permettre à ce que les commissions rogatoires puissent être exécutées, tout en permettant aux services de renseignement d'assumer leur mission propre, qui est celle du renseignement, de la détection très en amont de la menace. Comme je disais tout à l'heure, c'est un problème de synergie, de mobilisation de l'ensemble des structures étatiques qui ont des responsabilités, étant observé que pour moi, bien sûr, l'élément essentiel et fondamental qui est en termes d'efficacité et de légitimité, c'est bien évidemment la justice qui a fait la preuve de cela. Et je veux juste ajouter que de 1996 à 2016, j'étais en fonction, on a dû déjouer une à deux tentatives d'attentats par an. À l'époque, pourtant, la menace n'était pas à ce niveau-là et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu d'attentats, alors que nos amis britanniques et espagnols en ont eu, malheureusement, en 2004 et en 2005.
On pense aux attentats du 11 mars 2004 à Madrid et aux attentats de juillet 2005 à Londres. Gilbert Collard, quand vous entendez Jean-Louis Bruguière parler d'un manque de moyens, alors je sais qu'en France, il y a quand même une rhétorique de fond qui existe depuis des années, c'est qu'il faut baisser la dépense publique et tutti quanti, mais est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de moyens et que dans ce domaine, la lutte contre le terrorisme, qui nous concerne tous, il ne faudrait pas mettre le paquet ?
Mais on souffre d'un manque de moyens matériels. Les coupes faites par Nicolas Sarkozy sont connues. Contrairement à ce qu'il a raconté, M. Hollande n'a pas comblé le trou. La Cour des comptes le dit. Donc on est actuellement dans un déficit de personnel. Mais on ne manque pas que de moyens matériels, on manque de moyens moraux. On manque de moyens psychologiques, en quelque sorte, il faut se dire. Bon, on a, et tout le monde s'accorde à le reconnaître, un péril terroriste qui est colossal. On n'a rien fait depuis pour limiter l'afflux sur le territoire d'hommes dont on ne sait pas s'ils ne seraient pas des terroristes potentiels. Certains peuvent être tout à fait de braves gens, mais l'État islamique nous a quand même dit qu'il nous les envoyait. L'OTAN nous a quand même prévenu. Et le ministre de la Défense lui-même l'a admis. Bon. Malgré cela, on continue. Et on nous dit, attention, il y a l'état d'urgence, soyez rassurés. Il a fallu se battre pour obtenir que la question de la légitime défense des policiers soit posée. C'est pas encore réglé. Il a fallu se battre pour que les fonctionnaires de police puissent avoir le droit de porter l'arme en dehors du service. Et à l'heure actuelle, on n'a pris aucune mesure pour répondre à l'inattendu, je dis bien l'inattendu, de l'agression terroriste. On n'a pas eu l'idée de dire que les anciens fonctionnaires de police qui auraient suivi des stages de tir pourraient continuer à porter une arme. On ne fait rien pour répondre à l'inattendu de l'agression terroriste. Alors, bien évidemment, le manque de moyens, oui, matériels, budgétaires, mais aussi quand même, j'ose le dire, le manque de moyens moraux.
Alain Rodier, vous êtes directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement chargé du terrorisme. Vous avez entendu Jean-Louis Bruguière et Gilbert Collard. Jean-Louis Bruguière a parlé de moyens. Gilbert Collard a parlé de moyens et de réarmement moral. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben, le réarmement moral est absolument indispensable parce qu'en réalité, le combat se passe aussi et surtout sur le plan idéologique. Et d'ailleurs, je dois dire qu'il y a eu une disparition terrible, celle de Malek Chebel, qui prônait un islam des Lumières.
Qui est décédé en fin de semaine dernière.
Que, qu'on veuille ou non, tous les terroristes qui nous ont attaqués ces derniers temps se réclament effectivement d'un islamisme spécifique, hein, le salafisme des djihadistes, mais il faut les combattre sur le niveau des idées, et Malek Chebel était effectivement en pointe dans ce domaine, et malheureusement, il semble qu'il ne soit pas remplacé à l'heure actuelle. Donc il va falloir se battre sur le plan de l'idéologie, et là, malheureusement, il semble qu'il y a de grosses difficultés.
Jean-Louis Bruguière, Gilbert Collard a dit quelque chose, je vais faire réagir, mais je veux faire réagir avant Alain Rodier sur ce qu'a dit Gilbert Collard, parce que vous êtes juge. Gilbert Collard préférerait que l'état d'urgence soit sous le contrôle du juge judiciaire et pas du juge administratif. Est-ce que vous pouvez, vous qui êtes ancien juge antiterroriste, expliquer ceci à nos auditeurs ?
Oui, encore que, si vous voulez, de dire que le juge administratif n'est pas garant des libertés individuelles, c'est vrai sur le papier, mais aujourd'hui on sait comment fonctionne la jurisprudence administrative et celle du Conseil d'État, qui de ce point de vue-là apporte des garanties réelles. Il est de fait que c'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut soustraire le judiciaire de l'ensemble des processus de lutte contre le terrorisme, et surtout lorsqu'il s'agit, bien sûr, en mettant le curseur très sur le plan sécuritaire, d'atteinte, ce qui peut apporter des atteintes donc à la liberté individuelle qui peut paraître nécessaire donc pour combattre efficacement. Je pense qu'un élément fondamental qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas d'antinomie entre légalité et efficacité, et que au contraire, la légalité, ce qui nous protège précisément des attaques, et qu'il ne faut pas céder à la tentation précisément du tout sécuritaire et de l'exceptionnel, qui très précisément est le terrain sur lequel cherche à nous entraîner sur le plan des valeurs, justement, de nos valeurs que l'on réclame, donc ceux contre lesquels on combat, c'est-à-dire aujourd'hui l'État islamique. Donc là il y a un véritable enjeu et un piège. Donc il est important qu'on soit en capacité aujourd'hui de répondre donc à la menace par des systèmes qui soient des systèmes légaux, en tout cas qui ne franchissent pas la ligne rouge comme les Américains l'ont fait le 11 septembre. Je pense que là-dessus, il faut être extrêmement ferme.
Vous voulez dire après le 11 septembre avec Guantanamo, par exemple?
Oui, bien sûr, mais même pendant le 11 septembre, aujourd'hui, c'est pas contestable que, si vous voulez, les méthodes de torture qui avaient été prônées par l'administration Bush, dénoncer les problèmes qu'on appelle extraordinary rendition, c'est-à-dire les problèmes d'enlèvement d'individus en dehors des processus d'extradition, ciblé. Et même Guantanamo, puisque Obama, dès son premier mandat, avait dit, une des priorités, c'est de fermer au Guantanamo, et on voit à quel point c'est compliqué, définitivement compliqué, même si la Cour suprême donc à essayer de légaliser, en tout cas de remettre un peu plus, je veux dire, de rééquilibrer donc le système pour qu'il soit beaucoup plus conforme donc aux principes fondamentaux qui sont ceux des États-Unis.
Alain Rodier, vous avez entendu Gilbert Collard et Jean-Louis Bruguière. Le contrôle du Gilbert Collard préférait que l'état d'urgence soit sous le contrôle du juge judiciaire et pas administratif. Et Jean-Louis Bruguière a dénoncé certaines, on peut appeler ça comme ça, des dérives qu'il y a eu aux États-Unis après le 11 septembre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ?
Je ne me lancerai pas sur le terrain législatif et judiciaire, ce n'est pas ma spécialité, mais pour rebondir...
Et puis là, vous avez un avocat et un juge en face de vous, ils connaissent le sujet.
Voilà, exactement. Mais par contre, pour Guantanamo, je partage tout à fait le point de vue, c'est vraiment quelque chose d'absolument abominable. On s'aperçoit qu'ils ont été obligés de relâcher un certain nombre de détenus, et une partie de ces détenus s'est retrouvée du côté de l'État islamique. Donc Guantanamo, c'est vraiment la pire des solutions, parce que non seulement c'est considéré fort justement comme quelque chose qui est hors judiciaire, et qui en plus est sur le plan opérationnel est catastrophique, parce que ces individus ne sont absolument pas déradicalisés, si on prend un mot à la mode à l'heure actuelle.
Gilbert Collard, votre collègue Sébastien Pietrasanta, qui est rapporteur donc de la commission d'enquête sur les attentats de 2015, a dit, je cite, « Le nom état d'urgence est galvaudé. État d'urgence, un an après, n'a plus de signification et aujourd'hui son effet est très limité et très peu utilisé par les services de renseignement. » S'il est très peu utilisé par les services de renseignement, à qui sert-il ?
Écoutez, c'est un effet placebo.
Vous savez, là, on est dans la médecine.
Voilà, c'est vrai sur le plan psychologique. Voilà pourquoi j'utilise ce terme. L'effet placebo, c'est quand on ne prend pas de médicament, mais qu'on croit qu'on prend un médicament et qu'on va mieux. Voilà. C'est un effet placebo médiatique. Il y a l'état d'urgence. Ça voudrait dire que tout est fait pour nous protéger, alors qu'à l'évidence, l'état d'urgence ne sert strictement à rien. D'autant plus que, comme le disait le juge Bruguière, et comme je le confirme, on a vraiment à notre disposition tous les instruments dans la loi. Pour revenir 30 secondes, si vous le permettez, sur Guantanamo. Je l'ai dit à la tribune de la Chambre, je suis contre l'instauration d'un Guantanamo à la française. Je suis contre. Je veux qu'on lutte contre le terrorisme avec des armes de la légalité, de la fermeté et de l'impitoyabilité quand on a la preuve. Mais on ne peut pas sortir de l'état de droit. Et je trouve déjà le fait qu'on donne le contrôle au juge administratif sur l'état d'urgence une digression un peu inquiétante par rapport à la rigueur qui était auparavant celle de nos principes.
Jean-Louis Bruguière, vous êtes contre un Guantanamo à la française ? Je pense que oui, ce que vous avez dit tout à l'heure.
Farouchement contre, bien évidemment. Là-dessus, oui, ce serait une erreur énorme. Ce serait céder à cette fameuse tentation de sortir partir du champ de la loi, c'est de l'exception. Ne cédons pas l'exception. Je crois que c'est un élément important, c'est une nécessité et nous serons beaucoup plus forts et rigoureux. Et l'exception, c'est une facilité et une facilité qui n'est pas efficace. Donc là, je crois qu'il faut qu'on ait le courage politique, on l'a eu jusqu'à présent, mais peut-être que d'autres pays devraient aussi peut-être s'engager dans cette voie, de ne pas céder à l'exception, mais en même temps, d'avoir aussi, et je pense à nos collègues à certains pays européens, je ne veux pas les citer, de pouvoir aussi s'engager, y compris ceux qui n'ont pas souffert du terrorisme, donc qui sont moins sensibilisés que nous, dans une législation qui soit plus sécuritaire, en tout cas qui soit plus en norme, en phase avec ce que nous avons en France ou dans d'autres pays européens.
Jean-Louis Bruguière, Gilbert Collard a parlé de placebo. Vous confirmez ? Pour parler de l'état d'urgence.
Le mot est joli. Je ne suis pas effectivement persuadé de l'efficacité d'une mesure, surtout lorsque, si vous voulez, elle perdure. Je crois qu'aussi elle participe malheureusement, comme d'autres, d'un principe important qui n'est pas propre à la France, qui est celui du principe politique de la précaution. Le principe de précaution politique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est confronté à une situation extrêmement compliquée et qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui est peu maîtrisable, même, je veux dire, parce que elle dépasse le territoire national, eh bien, effectivement, on a du mal à prendre le risque politique d'abaisser un dispositif ou de supprimer un dispositif, même s'il est d'une efficacité relative, parce que si jamais il se passait un événement tragique, etc., on pourrait l'imputer précisément à la décision d'avoir supprimé cette mesure, même si d'aucuns ou tout le monde considère que son utilité est relative.
Alain Rodier, est-ce que vous parleriez comme Gilbert Collard de placebo pour l'état d'urgence et est-ce que vous êtes pour un Guantanamo à la française ?
Alors, absolument pas pour un Guantanamo à la française. Bon, l'effet placebo, moi, me ramène à la population française qui montre un sang-froid et un pouvoir de résilience absolument phénoménal. Je dois reconnaître que depuis un an, je suis sidéré par le pouvoir de calme global de la population française. On nous avait prédit des ratonnades, des émeutes, etc. Et pour le moment, la population française fait preuve d'une maturité qui est absolument exceptionnelle et qu'il faut souligner.
Vous continuez à vous exprimer sur le sujet. L'état d'urgence est-il efficace contre le terrorisme ? Une question à laquelle vous pouvez répondre, c'est le grand référendum Sud Radio en direct jusqu'à midi. 0826 300 300, sudradio.fr.
Sud Radio. Le grand référendum. 11h midi. Philippe David.
Jusqu'à midi en direct sur Sud Radio, c'est le grand référendum. Avec cette question, l'état d'urgence est-il efficace contre le terrorisme ? Vous nous le dites au 0826 300 300, sudradio.fr, avec Philippe David et ses invités, et Claire aussi qui surveille le sondage. Beaucoup de votants.
Je scrute tout ça, oui.
Ouais.
73% de non, ça n'a pas bougé, j'ai l'impression. Alors n'hésitez pas à laisser quand même des commentaires sur sudradio.fr, c'est important pour moi, pour divulguer ces messages, au moins je servirai à quelque chose.
Oh, mais n'importe quoi.
Rabix quand même sur Twitter qui dit « Bon bah moi je pense que ça changera rien du tout cet état d'urgence, ça ne fait qu'autoriser certains abus de pouvoir. »
Et face à nous, enfin avec nous, Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement chargé du terrorisme, Gilbert Collard, avocat et député Rassemblement Bleu Marine du Gard, et Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste et auteur du livre « Les voies de la terreur » publié chez Fayard. Ce matin dans la matinale, Jean-Louis Bruguière, on a parlé d'un cas d'un homme qui a été interpellé à Disneyland Paris avec deux revolvers et des chargeurs remplis. Il est passé au tribunal et comme peine, il a eu 6 mois de bracelet électronique. Est-ce qu'on peut dire que, outre l'état d'urgence, la justice soit à la hauteur et qu'une telle peine n'est pas un peu, allez, on va dire légère ? Jean-Louis Bruguière.
De porter un jugement de valeur sur un jugement quelconque, sur des décisions qui ont été prises par des juridictions indépendantes et souveraines. Donc là, je crois que là-dessus, je ne veux pas commenter le cas d'espèce en l'occurrence. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, il me paraît important d'une chose. D'abord, que les juridictions qui ont à juger, qui sont pour certaines peut-être aujourd'hui, évidemment, il y a eu des changements, beaucoup moins sensibilisées à cette problématique de la menace et de la réalité de la menace, et donc à la nécessité d'apporter une répression qui soit à la mesure du risque social et bien sûr du cas particulier saisi. puisque c'est pas, on juge des personnes et non pas des situations. Ça, ça me paraît un élément extrêmement important, et donc qu'il y ait donc une évolution jurisprudentielle, donc des juridictions de jugement qui ne sont pas spécialisées, sauf les cours d'assises, mais juridictions correctionnelles ne le sont pas, pour que l'on ait effectivement des peines qui soient à la mesure donc du risque. Et puis deuxième élément important, c'est, je dirais, c'est l'effectivité des peines prononcées. Je suis pour que les peines prononcées soient effectivement exécutées, et qu'aujourd'hui donc nombre de peines donc décidées par des juridictions de jugement, des tribunaux donc de correctionnels ou des cours d'assises, ne sont que partiellement exécutées, puisqu'il y a des mécanismes de remise de peine. Et je pense qu'en matière terroriste, il faut qu'il y ait une effectivité beaucoup plus réelle, et donc que ce qui existe aujourd'hui. Enfin, je voudrais juste rebondir sur un élément, qui me paraît fondamental, c'est la résilience. Je crois que le mot a été lâché, c'est un mot extrêmement
par
important.
Rodier.
La France fait effectivement, avec le Royaume-Uni, probablement les deux pays les plus résilients, et c'est un élément fondamental dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Gilbert Collard, Jean-Louis Bruguière n'a pas voulu réagir, mais un individu intercepté à Disneyland Paris avec deux revolvers et des chargeurs pleins, 6 mois de bracelet électronique, trouvez-vous que la peine soit à la hauteur? Et dans la lutte contre le terrorisme, plus que l'état d'urgence, est-ce que la réaction de les réactions de la justice sont à la hauteur?
Écoutez, moi j'ai pas d'obligation de réserve, hein. Donc je vais vous donner mon sentiment très clairement. J'ai l'impression, et c'est vérifié à la lecture de nombreuses décisions, et c'est vérifié à la lecture du mécontentement des policiers, et c'est vérifié à la lecture de leurs revendications. Les juges appliquent une psychologie du droit commun aux délinquants terroristes ou pré-terroristes. Dès lors, il y a une distorsion entre la réalité du délinquant et la perception que les juridictions ont de cette réalité. Tant qu'on n'aura pas une mise à jour du logiciel psychologique des magistrats qui ont à juger ces affaires, qui donnent l'impression, hein, quand on n'est pas dans la grande transgression terroriste, hein, mais quand on est dans les petits pas du terrorisme, donnent l'impression d'être une délinquance de droit commun. Tant qu'on n'aura pas chez les magistrats le réflexe d'appréhender ces comportements, non pas comme des comportements de droit commun, mais des comportements pré-terroristes, ou en tout cas initiateurs d'un passage à l'acte terroriste, on aura des décisions qui vont rendre furieux à la fois les policiers et les citoyens. Et on risque à un moment donné, du reste, de mettre un terme à la résilience avec ce type de comportement, parce que on peut faire preuve de compréhension, on peut faire preuve de légalisme, on peut faire preuve d'humanisme, mais à un moment donné, on peut aussi faire preuve d'un immense désespoir et d'une immense fatigue quand on se rend compte que les pouvoirs publics sont complètement déconnectés. Et la justice en ce moment, dans de nombreuses affaires, on ne va pas les énumérer, on ne va pas les reprendre, elle est à côté de ses pompes. Elle fonctionne avec un logiciel qui n'est pas adapté d'un point de vue criminologique à la réalité. C'est très simple. On le vérifie très réellement et très fréquemment dans de très nombreuses décisions.
Alain Rodier, 6 mois de bracelet électronique pour 2 revolvers et des chargeurs à Disneyland Paris. La justice est-elle à la hauteur?
Bon, je ne connais pas le faire dans son détail, donc je laisse effectivement aux juges la responsabilité de tout à fait de leur décision, mais ça amène un autre problème, c'est que de toute façon, même quand un individu est condamné à une période d'incarcération, c'est qu'est-ce qu'il devient ensuite quand il ressort. Et on revient sur ce problème toujours de déradicalisation qui, moi, malheureusement me rappelle des vieux souvenirs. Jean-Marc Rouillant, qui est ressorti de prison, eh bien, n'a pas changé du tout de son idéologie de base. Donc l'idéologie des gens qui sont incarcérés, et qu'est-ce qu'elle devient quand ils ressortent quelques mois ou quelques années après? Et malheureusement, je crois que ils sont toujours prêts à repasser à l'acte.
Gilbert Collard, vous avez entendu Manuel Valls qui disait hier sur la BBC que l'état d'urgence pourrait être poussé jusqu'après la présidentielle ou jusqu'à la présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir la France dans l'état d'urgence ad vitam aeternam?
Mais il y a un vrai danger, mais du reste, c'est l'inquiétude de beaucoup de parlementaires, de gauche comme de droite. Hein. On risque de s'installer dans un état d'urgence permanent. Alors, C'est très difficile d'en parler parce que c'est à la fois émotionnel et technique. Nous avons tous les instruments judiciaires, pénaux, pour réprimer toutes les formes de comportement terroriste. On a y compris l'infraction d'intelligence avec l'ennemi. Bon, on n'applique pas l'ensemble des potentialités que nous donne le code et on instaure l'état d'urgence. Bon, il va durer. Il va durer tant que la menace terrorisme durera et il va durer au nom du principe de précaution duquel aucun homme ou femme politique ne s'affranchira. Il n'y avait que François Hollande, à la veille, je crois, du drame de Nice,
pour 14 juillet.
Voilà, pour dire qu'il allait pas reconduire l'état d'urgence. Quoi. Je veux dire, il les fait toutes. Bon, alors imaginons un responsable politique qui déciderait de lever l'état d'urgence et qu'un drame arrive. Bon, il en serait tenu quelque part un peu pour responsable. Donc, au nom du principe de précaution, l'état d'urgence va perdurer.
Jean-Louis Bruguière, croyez-vous à l'état d'urgence ad vitam aeternam en France ?
J'espère que non. J'espère que le principe de précaution dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est repris maintenant par Gilbert Collard, et qui effectivement est un élément malheureusement important dans la prise des prises de position politique ne va pas être le moteur donc d'une institutionnalisation d'une disposition qui par nature est exceptionnelle et donc puisque elle sort du champ de la loi. Donc là, je crois qu'il y a un risque politique, un risque tout court en termes de dans le champ des libertés et de la protection des libertés et avec une efficacité qui n'est pas à la mesure de ce risque. Donc on l'a bien dit. De faire perdurer donc l'état d'urgence n'apportera pas donc une valeur ajoutée significative dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais je comprends intellectuellement, mais je le dénonce en tout cas, que ce principe de précaution puisse être mis en avant ou en tout cas puisse sous-tendre donc une récurrence et des renouvellements donc pour des raisons pas non nécessairement justifié au regard de la lutte contre le terrorisme, donc de cette mesure.
Merci beaucoup Jean-Louis Bruguière, vous êtes ancien juge antiterroriste, auteur des Voix de la Terreur publié chez Fayard. Merci beaucoup Gilbert Collard, avocat et député RBM du Gard. Et merci beaucoup Alain Rodier, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Sophie.
Le résultat avec Claire, ça donne quoi sur sudradio.fr?
Vous dites toujours non à cet état d'urgence, ce n'est pas efficace contre le terrorisme. Vous êtes 72%, Sophie.
Merci beaucoup.